Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne sur la fréquence 91.3. Pour l'émission des jeunes reporters européens, retrouvez-nous tous les mardis de 12h30 à 13h ou en rediffusion le soir même de 18h30 à 19h. Moi c'est David et au nom de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, je suis très heureux de démarrer cette troisième saison. Autour de cette table, Emeline, Richard, Yann et Guillaume, bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors sans plus attendre, voici le sommaire de notre émission. On va commencer par une présentation des jeunes ambassadeurs et des valeurs européennes. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs missions? C'est Richard et Emeline qui vont nous en parler. Ensuite, c'est Yann qui nous fera le plaisir d'interroger trois volontaires. Voilà un petit peu pour savoir quelles sont leurs premières impressions à Bordeaux. Puis, place au zoom régionaliste européen avec Héloïse. Et enfin, Guillaume nous fera un point sur l'actu européenne. Je donne tout de suite la parole à Emeline.
Alors avec Richard, on va expliquer un peu qui on est, pourquoi on est là et ce qui nous rassemble tous ici à Bordeaux. En fait, on est 24 jeunes de toute l'Europe en mission pour la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, la MEBA pour les intimes, hein, ça va plus vite. Donc la Maison de l'Europe, en fait, c'est une association qui existe depuis 2009. Elle est soutenue depuis sa création par la ville de Bordeaux, la région Aquitaine et aussi Bordeaux Métropole. Alors il faut savoir que ce n'est pas la seule Maison de l'Europe en France, il y en a plusieurs autres dans d'autres villes de France. Ici, si vous voulez y faire un tour ou juste venir nous dire bonjour, ça nous fera plaisir, c'est sur les quais, place Jean Jaurès. Alors l'objectif du lieu, c'est de permettre aux citoyens de découvrir les valeurs de l'UE, d'échanger autour de ça. Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent parler d'euroscepticisme, les institutions, elles sont relativement complexes, donc c'est pas facile de s'y retrouver. Donc c'est bien de pouvoir s'informer et de débattre pour s'approprier un peu tout ça. Et puis on peut aussi en savoir plus sur la mobilité en Europe, par exemple.
Maintenant que vous savez pour qui nous travaillons, je vais maintenant vous parler plus en détail de nous, les personnes autour de cette table qui vous présentons cette émission. Donc les Français qui travaillent sur cette émission sont en fait tous en service civique à la Maison de l'Europe à Bordeaux. Alors pour vous expliquer ce qu'est un service civique, il faut comprendre qu'il s'agit en fait d'un engagement qu'il est possible de faire depuis 2010 pour tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire même jusqu'à 30 pour les personnes en situation de handicap. Cela peut se faire dans des institutions de l'État français, comme par exemple une mairie ou un commissariat, mais ou alors dans une association comme à la MEBA. C'est une expérience qui est très intéressante pour chaque personne qui veut s'engager d'une période qui va de 6 mois à 1 an, et le seul critère de recrutement est la plupart du temps uniquement basé sur la motivation. Donc nous, à la MEBA, nous sommes 11 Français et nous avons pour mission de, je cite, « défendre les valeurs européennes ».
Ça veut dire quoi pour toi exactement, les valeurs européennes?
Alors c'est un terme qui est un peu flou en fait. Ça signifie qu'avec les autres volontaires, on va monter des opérations de sensibilisation et d'information sur l'Europe. En gros, ça passe par des interventions dans des écoles, dans la création et la diffusion de flyers, dans l'organisation de conférences ou encore dans le passage à la radio, ce que nous sommes actuellement en train de faire. Le tout, enfin, les opérations que l'on fait sont également accompagnées par d'autres volontaires européens qu'Emeline va vous décrire tout de suite.
Alors ces volontaires-là sont présents dans le cadre du SVE, le Service Volontaire Européen. C'est une expérience qui est proposée par l'agence Erasmus+, qu'on connaît quand même moins, cela dit, que les programmes comme Erasmus pour les études à l'étranger. Donc si vous avez entre 17 et 30 ans, vous pouvez partir pour une mission dans un autre pays d'Europe, et certains pays partenaires aussi aux alentours de l'Europe. Peu importe votre diplôme, votre expérience ou les langues que vous parlez, c'est absolument pas ça qui compte. Ce qui est proposé, en gros, c'est de découvrir une autre culture, et en même temps, vous pouvez être utile sur place. Vous pouvez développer des talents que vous aviez envie d'explorer un peu, des centres d'intérêt, en bénéficiant d'un accompagnement. Vous n'êtes pas du tout lâché dans la nature, il y a une organisation d'envoi, une organisation d'accueil sur place. Et vous êtes aussi logé et nourri, ce qui est quand même vraiment important puisque souvent l'un des freins au voyage, c'est l'impossibilité de le financer. Alors évidemment, ça attire du monde, l'opération a du succès. Et quand le programme a fêté ses 20 ans l'an dernier, on comptabilisait près de 100 000 personnes qui sont parties en SVE depuis 1996. L'important, c'est d'être motivé pour partir, que ce soit pour travailler dans une école ou dans une ferme, faire du sport, des ateliers de langue. Il y a vraiment des missions super variées.
D'ailleurs, je crois que tu vas faire un SVE toi aussi.
Alors oui, j'ai fait un SVE l'an dernier en Pologne. Je suis partie 6 mois, près de Varsovie, et j'ai fait des ateliers socioculturels dans des écoles, principalement.
En gros, t'as prêché la tolérance au fin fond de la Pologne.
Oui, alors c'est à peu près ça. On n'a pas de Polonais dans notre groupe, là, cette année, à Bordeaux. Mais on partage toutes nos missions dans Bordeaux avec 16 jeunes qui viennent de 9 pays différents et qui sont arrivés en septembre, donc tout récemment.
Donc pour finir avec ce tour de présentation de ce que nous sommes et qu'est-ce que l'on fait, je vais vous parler de nous en fait, les jeunes reporters européens qui travaillons à Radio O2. Il n'y a pas seulement Emeline, David et les autres, mais nous sommes une petite équipe avec des personnes que vous n'entendrez pas aujourd'hui puisqu'ils sont en régie et ou encore s'occupent des reportages. On est donc en groupe de volontaires dans un autre groupe de volontaires, un véritable inception en fait du volontariat. Et notre but est de vous informer sur l'actualité de l'Europe, que ce soit, oui, également vous parler de l'Europe en général, que ce soit le continent ou l'Union.
Et nous aussi.
Et puis également nous, bien sûr, en vous essayant de vous faire participer à notre émission. Nous aurons de temps en temps des émissions à thème, comme sur un spécifique, comme l'Espagne ou l'Estonie, ou avec des points de vue originaux, par exemple en parlant de cuisine ou d'autres aspects que nous essaierons de vous faire découvrir sur ces pays. Nous pourrons également parler de sujets brûlants sur la politique européenne, tels que l'Eurovision. On fera d'ailleurs sans doute une émission spéciale pour commenter la future prestation française qu'on espère au moins aussi bonne que celle des années précédentes.
T'as de l'espoir.
Ouais, ça c'est sûr. Bon, merci beaucoup Richard et Emeline. On passe tout de suite à Yann et ses invités.
Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont européens. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui sur Eau de Radio deux volontaires de la Maison de l'Europe, Sacha en service volontaire européen et Claire en service civique. Bonjour.
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 Mais je vous propose juste avant d'écouter Alex, Yannick et Carolina, tous les trois arrivés en France il y a un mois pour effectuer un service volontaire européen à la Maison de l'Europe également. On leur a posé quelques questions. Bonjour Alex.
Bonjour, je viens de Roumanie.
Bonjour Yannick.
Bonjour, je viens de l'Allemagne.
Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 20 ans et je viens de Portugal.
Quelles ont été tes premières impressions de la ville quand tu es arrivé ici à Bordeaux ?
Je crois que Bordeaux, c'est une très belle ville. J'aime beaucoup l'architecture et je crois que la météo est fantastique parce que j'ai vécu pendant 4 ans en Angleterre. Donc, quand je vois les soleils, je suis très heureuse.
Mes premières impressions, c'était que c'est une ville qui a un beau charme avec le fleuve et tous les vieux bâtiments qui sont bien restaurés. Ça m'a plu dès la première seconde, je trouvais ça très beau et aussi très bien entretenu de la ville.
Bordeaux, c'est une ville très belle, avec une énergie très motivante, mais la vie ici, c'est très cher, oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a étonné, qui t'a surpris quand t'es arrivé en France ?
Oui, j'ai appris à l'école que la négation est formée avec « ne ». Par exemple, on dit « je ne sais pas ». Mais ici, quand les gens parlent, ils disent « je ne sais pas ». Et c'est très bizarre pour moi. Et aussi, les Français disent « putain » beaucoup. Et c'est très drôle.
Ben, ce qui m'étonne un peu, c'est le climat ici à Bordeaux. Parce que des fois, il fait vraiment... très très froid le matin et ben la matinée ben on pourrait aller à la plage aller dans la mer prendre un bain. C'est très intéressant le climat ici.
Est-ce que tu avais un cliché sur les Français avant d'arriver?
Oui, le cliché des Français qui boivent beaucoup de vin rouge, bien sûr. Mais ben, du coup, étant à Bordeaux, ça, c'est un peu la vérité, oui, bien sûr.
Ça s'est confirmé.
Ah oui.
Je pensais que tous les Français étaient très bien habillés.
Mais tu te sens bien ici ?
Oui, je me sens à l'aise, oui. C'est convivial, les gens sont sympas et oui, c'est bien ici.
Merci Yannick.
Merci.
Carolina, très dynamique.
Ouais, c'était magnifique.
Alors Claire, tu es française, mais es-tu bordelaise ?
Alors non, pas du tout. Moi, je suis originaire de la région Auvergne, en fait. Donc je suis arrivée à Bordeaux juste pour ce service civique à la MEBA.
Donc t'as bougé, le service civique, t'as fait changer de lieu juste...
C'est ça, tout
capable
à fait.
De... D'accord.
Oui, parce que moi, j'ai fonctionné au projet et c'était vraiment le projet qui avait à voir avec l'Europe, les valeurs européennes qui m'a intéressée. Donc, j'ai pris mes petites valises et j'ai quitté mon Auvergne pour m'installer à Bordeaux.
C'est courageux. Sacha, tu es originaire d'où ?
Oui, je suis serbe, je viens de Serbie, en fait. Et c'est mon deuxième fois ici. J'ai fait un service civique, mission ici pour 7 mois. Et c'est la raison parce que je suis ici, j'aime bien sa ville vraiment.
Donc quelque part, tu es un petit peu plus bordelais que Claire, puisque tu as vécu plus longtemps à Bordeaux alors que tu n'es pas français. Et ta particularité, c'est que tu es serbe, donc tu viens d'un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, et pourtant tu as pu intégrer ce projet quand même.
Oui, c'est ça, c'est une grande raison parce que je suis ici. En fait, quand je cherchais le projet, quand je regarde, c'est le partage, le values de l'Europe. J'étais vraiment très content parce que, ouais, comme tu as déjà dit, Serbie, ce n'est pas la part de l'European Union. Et voilà, c'est génial pour découvrir la diversité, la diversité des cultures, de tous, comment ça passe ici. Et vraiment, c'est génial.
Et alors, vous êtes presque tout nouveau sur Bordeaux. Et moi, je serais curieux de savoir quelles étaient vos premières impressions en arrivant. Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux? Qu'est-ce qui vous a étonné aussi?
Moi, du coup, ce qui m'a sauté aux yeux, je pense que c'est immanquable, c'est l'architecture, le fait que tous les bâtiments soient à peu près de la même taille, qu'ils soient tous aussi blancs, parce qu'il faut savoir que nous, en Auvergne et à Clermont-Ferrand en particulier, tous les bâtiments sont en pierre de Volvic, en fait, en pierre volcanique qui est noire. Et du coup, par rapport à ici, à Bordeaux, où tout est en pierre de calcaire, tout est blanc, c'était hyper différent. Mais
c'est lumineux.
Voilà, c'est ça, hyper lumineux, mais du coup, c'est hyper agréable aussi.
Et toi, Sacha?
Ouais, pour moi, il y a vraiment beaucoup commerciales, très belles places, comme sur le quai, toutes les choses, ça va, mais je préfère vraiment rue droit côte, parce que j'étais travaillé là, dans l'Ormont et à Carrier, et vraiment, il y a beaucoup de places qui ne sont pas vraiment très connaissances des jeunesse, mais j'aime bien vraiment.
Et est-ce que vous avez une petite anecdote amusante, quelque chose à nous raconter quand vous êtes arrivé ici, quand vous êtes installé?
Oui, alors moi je savais, mais je m'en souvenais pas, mais c'est vrai qu'il y a ce fameux débat en France, pain au chocolat, chocolatine. Et donc du coup, quand je suis allée à la boulangerie pour m'acheter un pain au chocolat, j'ai bien vu qu'on ne disait pas ça et que j'étais un petit peu une étrangère. Donc du coup, depuis je me suis adaptée, même si ça me fait un petit peu mal au cœur. Team pain au chocolat ici.
Et on est entre nous, vous pouvez tout me dire. Est-ce que vous aviez des clichés sur les Français, sur les Européens même, peut-être, avant d'arriver?
Oui, j'aime bien dire des anecdotes. Première, comment je ne parle pas français quand j'arrivais ici, première fois, et j'étais travaillé avec 7 femmes dans un bureau, et je dis un matin, « Oh, une vite salope, tout le monde !» Mais en fait, j'aime bien dire « Salut !» Et voilà, c'était vraiment rigolo, mais c'est comme tous les jours, c'est l'humour qui fait le lien des personnes. Et ouais, c'est ultra rigolo. Et pour cliché, ouais, c'est tous les jours le même, comme tout le monde. Les françaises personnes n'aiment pas parler anglais. Uh-huh. Et je découvrir, c'est vrai.
C'est vrai, c'est ouais, c'était vrai.
Et moi, du coup, j'avais plus un cliché sur les Bordelais qui ne sont pas réputés pour être accueillants, pour accueillir les nouvelles personnes. Et en fait, non, pas du tout. Moi, je me sens très bien ici à Bordeaux. Donc, ils ont été très accueillants avec moi, en tout cas.
Tant mieux. Moi, je me demande aussi une chose, c'est concrètement, qu'est-ce qui fait dans votre parcours personnel qu'aujourd'hui, vous êtes volontaire? Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage concrètement?
En tout cas, moi, pour ma part, c'était une vraie volonté de me sentir utile. J'avais fini mes études et du coup, je m'étais posé la question, est-ce que je cherche un travail? Est-ce que je voyage ou quoi? Et du coup, non, j'ai trouvé cette annonce de service civique en tant que volontaire européenne. Et c'est vrai que ça a touché mes valeurs, ce que j'avais envie de transmettre. Et je me suis dit, allons-y, si on peut vraiment donner du sens à ces journées, c'est fait pour moi.
Ouais, pour moi, j'aime bien dire, c'est vraiment comme dernière expérience ici, c'était la meilleure expérience dans ma vie. Mmh. Et le plus raison parce que je suis ici maintenant pour faire la SVU, c'est juste pour commencer cette expérience. Et vraiment, c'est très facile pour tous les gens qui vous font ça. C'est juste envie qui manque, et voilà.
Et juste dernière question, un tout petit peu technique, mais qui n'intéresse pas moins nos jeunes auditeurs. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer un service civique? Comment est-ce que tu as fait, toi?
Alors, c'est relativement très simple, même si ça demande beaucoup de motivation. Il suffit d'aller sur le site internet du service civique et de chercher des annonces qui peuvent nous plaire soit en France, soit à l'étranger. Et il suffit de postuler. Mais ce qui est super avec le service civique, comme disait Richard tout à l'heure, c'est que c'est uniquement basé sur la motivation. Et du coup, voilà.
Merci. Je disais, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont européens. Je rajouterais, ils sont très motivés. Je vous souhaite de belles et riches aventures bordelaises. Et merci à vous.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup, Yann. Richard, c'est à toi maintenant pour nous faire découvrir un petit bout de culture européenne.
Donc, rebonjour à vous tous. À plus de vous avoir présenté ce qu'est un service civique et les jeunes reporters européens, je vais maintenant vous faire une chronique en fait sur une œuvre culturelle d'origine européenne. Imaginez-vous un peu, en quelque sorte, que je suis un peu ce pote que tout le monde a, qui est toujours là à vous dire « Eh, faudrait vraiment que tu mates ça, faudrait vraiment que tu écoutes ça, etc. » Donc, si je vous parle aujourd'hui de grossièrement ce qu'on pourrait appeler des objets de culture européenne, ce que je veux dire par ce terme un peu barbare, ce serait des séries, des films, de la culture, des jeux vidéo, etc. En gros, pour faire simple, tout ce qu'on peut trouver à la FNAC. Donc, si jamais je vous parle d'œuvres de culture populaire européenne, c'est pour vous montrer qu'il existe des choses très intéressantes qui se créent tous les jours en Europe et qu'elles valent la peine d'être découvertes et partagées. Et donc, aujourd'hui, avant que ce pays ne quitte l'Union européenne, je vais décider de vous parler d'une série anglaise. Et pour ma première chronique, une série que j'aime beaucoup à titre personnel et qui devrait être vraiment à mon goût beaucoup plus connue par le grand public. Mais comme vous le savez, l'Angleterre est spécialiste dans les mauvaises décisions, comme en témoigne le très récent Brexit. Cette série a donc été annulée au bout de 2 saisons, faute d'audience malgré la qualité indéniable du produit série. La série que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle donc Utopia, rien à voir avec le cinéma qui est situé rive gauche. Soyons un peu sérieux, nous sommes quand même sur O2 Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. La série a été créée par Denis Kelly, Utopia, et a été diffusée entre 2013 et 2014 sur Channel 4, la chaîne destinée aux jeunes adultes du réseau de la BBC, à qui l'on doit déjà les séries Misfits et Skin. Cette série suit donc les aventures, avec énormément de guillemets, puisqu'il s'agit avant tout d'une grande fuite en avant, de 4 protagonistes, chacun possesseur d'une œuvre graphique qui s'appelle Utopia, d'où le nom de la série, et parvenant à récupérer le 2e tome, ces œuvres étant un recueil d'illustrations inquiétantes dessinées par un auteur mystérieux et prétendument fou. Ils doivent par la suite échapper à une conspiration à grande échelle cherchant à récupérer ce mystérieux ouvrage, sans doute des geeks un peu trop passionnés en somme, également à la recherche d'une certaine Jessica Hyde, dont le nom vous entrera dès la fin du 1er épisode. Il faut donc vous imaginer un thriller haletant, nourri par une énergie du désespoir, utilisant l'imaginaire des grandes conspirations gouvernementales. Le tout est servi par une photographie faisant la part belle aux couleurs primaires très vives et un certain sens du cadre, afin de créer une esthétique similaire à un roman graphique. La musique n'est également pas en reste avec les compositions de Cristobal Tapia de Vire, dont je massacre sûrement le nom. Elles parviennent à créer une ambiance participant grandement à la tension présente dans toute la série. Cette excellente série est également servie par un casting d'acteurs très compétents, avec un cast principal joué néanmoins par des personnes très méconnues en France, à l'exception peut-être de l'acteur qui a un nom à rallonge, Nathan Lloyd Stewart Jarrett, qui joue déjà dans Misfits le rôle de l'athlète qui pouvait remonter le temps. En bref, puisqu'il me faut faire une chronique courte pour ma première fois, je ne peux que vous conseiller cette série si jamais vous êtes un amateur de thriller, si jamais vous aimez les esthétiques léchées, mais aussi les accents britanniques, en particulier l'accent de l'actrice qui joue le personnage de Becca, possédant un magnifique accent gallois qui permettra de vous faire relativiser sur votre peur de ne pas être compris avec votre accent similaire à celui de Nelson Montfort. Néanmoins, mise en garde cependant, cette série comporte par moments des scènes assez violentes, sans pour autant verser dans le « too much », la violence dans Utopia, ainsi que l'atmosphère, se fait plus sur un plan psychologique, en fait. Cette série est néanmoins réservée à un public averti, en particulier la fin du 1er épisode, qui est assez dur. Néanmoins, n'hésitez pas à vous jeter dedans, ces découvertes vaut particulièrement le détour, et malgré la frustration de commencer une série qui ne se termine pas, vous ne regretterez pas cette découverte.
Eh bien, merci beaucoup, Richard. On ira jeter un coup d'œil à cette série. Merci pour ta chronique. Maintenant, place à notre Zoom régionaliste enregistré par Héloïse.
Maintenant, voici notre chronique Zoom régionaliste européen. Aujourd'hui, nous partons dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, à Granada. Et quoi de mieux pour parler de l'Espagne qu'un Espagnol ? Nous accueillons donc Ruben. Bonjour Ruben, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour Héloïse. Oui, je m'appelle Ruben et je viens d'une belle ville qui se trouve dans l'Andalousie. Il s'appelle Granada.
Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous parler de l'histoire de Granada, des monuments à visiter par exemple ?
Oui, bien sûr. Granada est une ville universitaire où tu peux trouver beaucoup de mélanges culturels. Par exemple, nous avons le monument à l'Alhambra, qui est très connu, et un palais arabique très très connu à niveau international, qui se trouve aussi dans un quartier judaïque. et tous les deux sont au patrimoine de l'humanité.
Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous partager des choses insolites que l'on peut faire à Granada?
Oui, bien sûr. Nous pouvons trouver beaucoup de bars où tu achètes à boire pour 2 heures, plus ou moins 2 heures en heure, et tout le temps, tu as des tapas gratuites. Et Granada est une ville très festive. Et tous les jours de la semaine, il y a événements pour faire la fête avec tes amis. Et pour ces raisons, et pour les privés surtout, beaucoup d'étudiants veulent venir à étudier à Granada. Ce qui vient, c'est que tu peux aller à la mer et faire ski à la montagne Sierra Nevada en 30 minutes pour moi, en voiture.
Merci Ruben, c'était très intéressant. J'espère que nos auditeurs auront eu envie de visiter Granada. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de partir en Andalousie. Et le mot de la fin est pour toi, Ruben. Est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose en espagnol dans ta langue natale?
Oui, oui. Un saludo para todos y un beso muy grande desde España.
Merci Ruben.
Un reportage donc réalisé par Héloïse. On se penche maintenant sur l'actu européenne avec Guillaume.
Bonjour à tous, merci David pour cette première chronique d'actualité européenne. Que se passe-t-il en Europe en ce moment? Je vous fais le topo. Et je commence cette chronique par un focus sur la Catalogne en Espagne. Si vous n'avez rien suivi ces derniers mois, voici un petit récapitulatif. La Catalogne est une région historique d'Espagne. En Espagne, il faut savoir que ce n'est pas comme en France, les régions ont plus de pouvoir et sont dotées d'une certaine autonomie. En fait, elles disposent d'un gouvernement, d'un parlement et d'un président qui leur sont propres. Ces régions sont libres de s'administrer comme elles l'entendent, sous réserve de respecter la Constitution espagnole. Le 1er octobre, contre l'avis du tribunal constitutionnel espagnol, la Catalogne met en place un référendum pour ou contre son indépendance, qui se tient dans des conditions très difficiles avec des violences qui éclatent un peu partout. Malgré ces violences, le pour l'emporte à plus de 90%. Le président de la Catalogne, Carles Puigdemont, tient un discours ambigu le 10 octobre dernier, affirmant à la fois respecter le résultat du référendum et dialoguer avec le gouvernement espagnol. Cependant, le gouvernement espagnol juge que la Catalogne, en ayant tenu ce référendum, contrevient à l'intérêt général de l'Espagne et donc à la Constitution espagnole. Et aujourd'hui, le gouvernement espagnol se prépare à suspendre le gouvernement catalan et à administrer directement la Catalogne. Il lui faut juste l'aval du Sénat espagnol, ce qui devrait se passer demain. Nous le voyons donc, cette situation politique est très compliquée et très instable et sera suivie de très près. Dans le reste de l'actualité européenne maintenant... Erasmus, quel bilan? Cette année, nous célébrons les 30 ans d'Erasmus, ce fameux programme lancé en 1987 pour permettre aux étudiants d'effectuer une partie de leurs études dans un autre pays européen. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce bilan est encourageant. En effet, selon un article du magazine Les Échos, du 9 janvier dernier, ce dispositif aurait profité à 5 millions d'Européens, dont 1 million de Français. Et, info insolite, c'est plus d'un million de bébés européens qui seraient nés de couples Erasmus depuis 1987. Face à un tel bilan, on ne peut que souhaiter au programme de durer au moins 30 ans de plus. Parlons politique. Les débats font rage au Parlement européen au sujet de la directive des travailleurs détachés. En effet, la Commission européenne entend faire de l'Europe un triple A social. Au-delà de l'effet d'annonce, ce terme signifie qu'elle compte améliorer les textes permettant aux travailleurs européens travaillant dans un autre État de l'Union d'avoir le même salaire pour le même travail sur un même lieu de travail. Le débat oppose surtout les pays d'Europe occidentale, dont la France et l'Allemagne, qui sont très favorables à ces directives, et 10 pays d'Europe centrale et orientale qui accusent Bruxelles d'ingérence trop prononcée dans la politique des États. Affaires et débats à suivre. Le moment que vous attendez tous, la rubrique fiscalité. Fraude à la TVA, la Commission européenne veut récupérer 40 milliards d'euros. Alors dit comme ça, ça paraît énorme, mais quand on sait que le manque total à gagner a été évalué par cette même commission à plus de 150 milliards d'euros, on se dit qu'il y a manière à faire mieux. Aussi, pour y arriver, la Commission propose d'harmoniser les règles de perception de la TVA dans tous les pays de l'Union européenne. Une fois encore, affaire à suivre. Enfin, pour conclure cette chronique, parlons de l'agenda culturel en Europe. Aujourd'hui, nous allons en Autriche. Et dans la capitale d'Autriche, à Vienne, actuellement se déroule la Viennale, qui est le plus grand événement cinématographique du pays. C'est plus de 300 films qui sont projetés durant ce festival pour tous les genres et tous les goûts. Si vous êtes cinéphile, si vous êtes européen, vous savez où aller. Voilà, c'est tout pour la première chronique. Je te rends la parole, David.
Merci beaucoup, Guillaume. Alors, moi, je me fais un petit plaisir aujourd'hui et je me permets de vous présenter le premier portrait de cette saison des jeunes reporters européens. Honneur aux femmes, donc, pour ce premier portrait. À 49 ans, Birgitta Jonsdottir, excusez-moi d'avance si le nom n'est pas bien prononcé, est assurément la personnalité politique islandaise de l'année. Fondatrice du parti pirate islandais en 2012, elle a réussi ce qu'aucun de ses homologues ailleurs en Europe n'ont réalisé jusque-là. Obtenir 10 députés au Parlement et s'imposer comme une force politique majeure lors des élections législatives d'octobre 2016. Cette activiste, de longue date, ancienne collaboratrice de Julian Assange chez Wikileaks, partisane de la protection des libertés individuelles et des lanceurs d'alerte, elle détonne au sein de ce paysage politique feutré, à la fois en Islande comme en Europe. Il faut souligner aussi qu'elle est une habile communicante, celle qui se présente comme une poète punk au look travaillé et parfois taxée de populiste par ses adversaires. Sur l'Union européenne, un sujet épineux sur l'île, Madame Jonsdottir souhaite mettre en place un référendum dans le but de relancer les négociations d'adhésion. Dans une Europe où l'opposition à la classe politique en place s'exprime par un recours croissant aux formations nationalistes, Birgitta Jonsdottir a ses pirates et ses pirates se veulent les porte-parole d'une nouvelle manière de faire de la politique. Alors moi j'aurais une petite question à vous poser autour de la table. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette femme dont j'écorche le nom à chaque fois que je le prononce ?
Ouais, c'est possible, oui.
Non, je n'en ai pas entendu parler, mais j'avais déjà entendu parler du parti pirate.
Et donc, du coup, en quels termes est-ce que tu avais...
Alors, sans de manière pas non plus très précise, tout ce que je savais, c'est que c'était un parti qui avait à cœur de défendre les libertés individuelles et les libertés d'expression, et qu'ils étaient très populaires en Islande. Mais je crois que ça existe aussi dans d'autres pays. Il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises, aux législatives françaises, ils s'étaient également présentés.
Moi, j'avais vu un petit doc sur elle juste avant qu'elle gagne tous les sièges là, qui ont été obtenus. Mais je ne me souvenais plus de son nom imprononçable.
Effectivement.
Je me souviens du personnage.
Eh bien, on va finir là-dessus. Donc, on arrive au terme de cette émission. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué. Nos invités, Claire et Sacha, évidemment, et l'ensemble des jeunes journalistes autour de cette table, sans oublier nos régisseurs. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain à 12h30. Merci de nous avoir suivis et bon après-midi sur Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne sur la fréquence 91.3.